Oui, je vais vous parler de Simone de Beauvoir, ou plus exactement du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, sorti, comme vous le savez, en 1949, et qui a créé un grand scandale de presse, de critique, dans le monde médiatique et intellectuel. Alors, avant de parler de ce scandale, je vais un peu décliner la devise républicaine à l'aune de son propos dans le deuxième sexe. En commençant donc par l'égalité. L'égalité qui, bien sûr, pour les féministes, est un mot-clé. Toute la première vague tourne autour de l'égalité des droits. Toutes les revendications de la première vague féministe tournent autour de l'égalité des droits. Et en premier chef desquels, les droits politiques, puisqu'elle voyait les droits politiques comme un moyen d'acquérir tous les autres droits. Et elles avaient de quoi faire, de quoi revendiquer, puisque à l'époque, le droit est profondément inégal, et en particulier le code civil qui est leur bête noire. À l'époque du deuxième sexe, au moment où Simone de Beauvoir rédige le deuxième sexe, les suffragistes n'ont pas complètement disparu. C'est vrai que c'est une génération assez ancienne, mais bon, les associations se reconstituent, même si elles sont vieillissantes, et elles reprennent le combat, parce qu'elles savent bien que l'égalité politique, enfin acquise en 1944, n'est pas le fin mot de l'histoire. Elles savent bien qu'il y a derrière d'autres droits à conquérir. Beauvoir, elle, ne s'intéresse pas tellement à la question des droits. Elle ne s'intéresse pas tellement à la question de l'égalité des droits. Elle avait, dans une première version de son plan pour l'ouvrage du deuxième sexe, dont elle n'avait pas encore trouvé le titre d'ailleurs, elle avait l'idée de faire un chapitre sur la question des droits. Il y a une table des matières qui est conservée à la BNF qui montre qu'elle avait ce projet-là. Puis finalement, ce chapitre va disparaître. Elle ne consacrera aucun chapitre à la question des droits. Elle dit même, de façon assez cavalière, dans l'introduction, « En gros, nous avons gagné la partie ». Ce qui, en 1949, peut quand même laisser dubitatif, hein, parce que certes, il y a l'égalité des droits politiques qui vient d'être acquise, certes, il y a l'égalité dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution de la 4e République, qui est un acquis important, mais il y a encore quantité de droits que les femmes n'ont pas, aussi bien dans la formation, dans les professions, dans les salaires, dans les droits familiaux, etc., etc. Mais elle se laisse porter par ce contexte qui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ferait croire que l'égalité des sexes est enfin acquise. Alors elle va s'intéresser à des droits que les féministes ne revendiquaient pas et qu'elle ne formule pas d'ailleurs en termes de droits, mais plutôt en termes de liberté. Des droits que nous appelons aujourd'hui les droits sexuels et reproductifs. La contraception, l'avortement, elle en fait plusieurs pages hein, pour expliquer à quel point c'est important de libérer la contraception et l'avortement. Mais elle va parler de ça plus en termes de liberté. D'ailleurs, peut-on parler d'égalité face aux droits reproductifs? Est-ce que hommes et femmes, face à l'avortement, ont des intérêts communs, égaux? Est-ce que hommes et femmes, face à la contraception, sont à égalité? Donc le mot-clé, en fait, pour Beauvoir, c'est liberté. Et la liberté, c'est la valeur suprême, d'une manière générale, de l'existentialisme. Simone de Beauvoir, tout son livre, qui peut être vu comme une sorte d'encyclopédie sur la question des femmes en 1949, qui part parfois un petit peu dans tous les sens, parce qu'elle traite tous les savoirs, toutes les disciplines. On peut y voir l'archéologie des études féministes qui apparaîtront bien plus tard. Elle a quand même un fil rouge directeur, et ce fil rouge directeur, c'est l'existentialisme. C'est ça qui rend cohérente sa pensée. Et pour l'existentialisme, la liberté, c'est la valeur suprême. L'humain, l'homme, il est condamné à être libre. Il est condamné à s'inventer lui-même, à se donner lui-même ses projets, son futur, ses valeurs. Il n'y a rien au-dessus de lui qui puisse le guider. Il est fondamentalement défini par la liberté. Et il y a tout un vocabulaire que Simone de Beauvoir reprend dans le deuxième sexe. transcendance contre immanence. Hein, la transcendance, c'est se projeter vers le futur avec des projets qui sont à soi-même. L'immanence, c'est retomber dans la routine, dans le conformisme, dans ce qu'on a voulu faire de vous sans que vous y ayez vraiment réfléchi. Il y a aussi le dialogue entre authenticité et facticité. L'authenticité, c'est quand on répond à ses vrais désirs, à sa vraie liberté, qu'on développe son projet. La facticité, c'est quand on tombe dans l'immanence et qu'on ne produit rien qui ne soit véritablement à soi. Or, dit-elle, dans le deuxième sexe, les femmes n'ont pas accès à la transcendance. Elles sont enfermées par la société et par les hommes dans l'immanence. Elles n'ont pas la liberté de se projeter vers un futur. Elles sont enfermées dans des rôles sociaux qu'on leur prédestine, qui sont ceux de la maternité et de l'épouse. Et c'est la raison pour laquelle Simone de Beauvoir va lutter contre tous les déterminismes, parce qu'évidemment, ces déterminismes, quels qu'ils soient, ils brident la liberté. Donc, Dieu, pour elle, il n'y a pas de Dieu qui puisse donner des valeurs. Hein. L'être humain est condamné à se les inventer lui-même. L'existentialisme est une pensée foncièrement athée. La nature ne peut en rien guider les comportements pour Simone de Beauvoir, même si elle reconnaît que hommes et femmes sont différents, qu'ils ont des expériences corporelles différentes. Pour elle, la nature ne pourrait en aucun cas dicter un destin, enfermer les femmes dans un rôle. Ou encore le matérialisme historique qui, le marxisme, hein, qui explique que les hommes, les cultures, les superstructures sont en dernière instance déterminées par le mode de production. Ça, elle ne peut pas l'entendre, hein, donc elle est hostile au matérialisme historique. Pour elle, ce sont les hommes qui font l'histoire et non pas les grandes structures économiques. Ou encore la psychanalyse, l'inconscient. Si on admet que l'homme est guidé par un inconscient qu'il ne contrôle pas, où est la liberté ? Donc pour Sartre, comme pour Simone de Beauvoir, l'inconscient est assez minoré, il parle plus volontiers de mauvaise foi que d'inconscient. Donc c'est la raison pour laquelle le deuxième sexe peut être lu comme une machine de guerre contre une pensée biologisante, naturalisante, qui enferme les sexes dans des rôles, et plus particulièrement les femmes dans le rôle de la maternité. Elle réclame donc pour les femmes la liberté de choisir leur vie, quelle qu'elle soit, même si ça passe par le refus du mariage, le refus de la maternité, ce qu'elle fait pour elle-même, et qu'il ne doit y avoir aucune contrainte dans ses libertés pour les femmes. Elle a d'ailleurs trois chapitres qui sont annonciateurs de la libération sexuelle, qui ne surviendra que plusieurs décennies plus tard. Et c'est ces trois chapitres, justement, qui vont causer le scandale à la réception du deuxième sexe. Trois chapitres qui avaient d'ailleurs été publiés en avant-première dans les temps modernes, la revue que Sartre, Beauvoir et Merleau-Ponty ont fondée en 1945. Et ces trois chapitres sont la mère, l'initiation sexuelle de la jeune fille et la lesbienne. Alors dans le chapitre la mère, Simone de Beauvoir commence par un plaidoyer de 15 pages pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et cette idée-là, elle la gardera fidèlement tout le long de sa vie. Elle démolit aussi l'idée que la maternité puisse représenter pour les femmes un destin accompli, puisse suffire à remplir leur vie, à justifier leur existence, puisse être un choix de liberté totale. Il faut dire qu'à l'époque, il faut se replacer dans le contexte. La contraception, elle est interdite depuis 1920. L'avortement, elle est interdit depuis bien plus longtemps. Et il y a toute une politique nataliste hein, qui pousse les femmes à avoir des enfants et qui les encourage à quitter leur travail salarié. Nous sommes en plein baby-boom, hein, il y a une sorte de glorification de la mère au foyer. Elle s'attaque aussi à l'idée que la mère au foyer sera la meilleure mère pour les enfants. Elle met en avant au contraire tous les bienfaits des garderies collectives, des crèches et toutes les névroses qui peuvent être dans les milieux familiaux où les femmes ont sacrifié leur vie pour leurs enfants et le leur font payer d'une manière ou d'une autre. Donc elle est très négative sur cet idéal de la maternité. Dans le chapitre L'initiation sexuelle de la jeune fille, elle met en avant toutes les violences sexuelles que les jeunes filles peuvent rencontrer. Elles disent que quand le corps se transforme à la puberté, les femmes se sentent devenir des proies pour des hommes. Alors, évidemment, il n'y a pas encore tout ce que le vocabulaire de la deuxième vague apportera sur l'idée de harcèlement, notamment le harcèlement de rue, mais enfin, elle décrit déjà ces violences sexuelles. Et dans le chapitre La lesbienne, elle s'oppose à l'idée que l'homosexualité serait une perversion, qui est le discours des sexologues. Elle s'oppose à l'idée que l'homosexualité serait une fixation à un stade infantile, c'est l'idée de la psychanalyse. Et elle fait de l'homosexualité un choix libre fait en situation. Donc c'est effectivement assez scandaleux à une époque où le terme de lesbienne, ça ne peut exister que dans la littérature un peu pornographique ou dans la littérature médicale. Et ça va provoquer effectivement des réactions d'hostilité assez fortes. Et ce sont précisément ces trois chapitres sur lesquels les critiques vont se focaliser en 1949. Et on va traiter Simone de Beauvoir de pornographe, hein, de suffragette de la sexualité. Et d'autres, au contraire, vont insister sur le bien fondé de ces revendications. Dernier terme, la fraternité. La fraternité, dans le deuxième sexe, n'est pas tellement mobilisée. Il apparaît le plus souvent dans le dernier chapitre qui s'appelle vers l'émancipation, hein, donc un chapitre optimiste qui conclut vers une émancipation des femmes. En fait, elle appelle à la fraternité adelphique, hein, comme tu disais, à savoir que hommes et femmes deviennent des confrères, des camarades, qu'ils cessent de se voir à travers les rapports de séduction pour partager des métiers, des études, des goûts, des activités. Qu'ils ne soient plus enfermés donc, dans des rapports strictement et exclusivement amoureux, sexuels ou de séduction. La sororité pour Simone de Beauvoir n'est pas un idéal qu'elle met spécialement en avant. À l'époque donc, de ces groupes suffragistes qui se reconstituent à la Libération, Simone de Beauvoir ne les rejoint pas du tout. Elle ne rejoindra d'ailleurs aucun groupe ou association féministe avant que le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes, n'émerge en 1970 en France. Et c'est là où elle va reconnaître en quelque sorte une certaine radicalité qu'elle est prête à partager avec des jeunes femmes dont elle pourrait être la grand-mère d'ailleurs, hein, qui sont beaucoup plus jeunes qu'elle. Donc voilà où nous en sommes en 49, et on peut dire que Simone de Beauvoir, en fait, à travers ces trois chapitres qui appellent à des libertés nouvelles, liberté sexuelle, liberté de l'avortement, liberté de la contraception, liberté du choix de sa sexualité, elle annonce finalement la révolution sexuelle qui prendra place en 1970, et elle annonce aussi les revendications du mouvement de libération des femmes des années 1970, qui, vous le savez, mettra au cœur de ces revendications le droit à l'avortement, mais aussi la lutte contre les violences sexuelles, mais aussi le libre choix de sa sexualité, puisqu'il y a toute une frange lesbienne dans le mouvement de libération des femmes. Et ce n'est pas un hasard si Simone de Beauvoir va se mettre à militer précisément quand cette génération-là émergera. Merci.